franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Shakespeare avait sans doute raison. Il y a 2 mois, souvenez-vous, le pays adoptait une loi proprement scandaleuse, loi permettant à la police de saisir les bijoux des demandeurs d'asile. Et comme si s'en prendre à eux ne suffisait pas, on s'en prend également à ceux qui leur portent assistance. Pour preuve, cette condamnation dont se fait l'écho Olivier Truc dans les colonnes du Monde, c'était cet automne, une amende de 6000 euros pour un couple de Danois jugés coupables de trafic d'êtres humains, leur tort, avoir été une famille de Syriens à entrer dans le pays en voiture. Or, cette semaine, une autre condamnation montre qu'il y a comme un deux poids deux mesures, moins de 700 euros d'amende, pour un homme qui avait insulté et craché sur un groupe de migrants. À croire qu'avec la montée en puissance de l'extrême droite dans le pays, une nouvelle échelle de valeurs est en train de s'imposer, échelle sur laquelle il est donc moins condamnable d'humilier des gens en crachant dessus que de les aider. Quelques 300 Danois attendent d'ailleurs de passer à leur tour devant la justice, accusés de s'être montrés trop généreux, trop accueillants avec des réfugiés. Quant à la famille syrienne, elle a finalement décidé de rejoindre la Suède. Un cheval, mon royaume contre un cheval. Là encore, il s'agit d'une réplique de Shakespeare, une réplique de Richard III. Nous, aujourd'hui en France, nous vivons sous François Ier, mais je ne crois pas que François Hollande soit passionné d'équitation. En revanche, il tient à son royaume, même s'il est de plus en plus seul.
C'est du moins ce que nous explique le journal du dimanche, qui évoque précisément l'isolement du président.
Et jamais depuis 2012, la gauche n'était apparue aussi mal en point qu'aujourd'hui, constate Dominique de Montvallon. Une gauche perdu, écrit-il, ou si ce n'est perdu, démoralisé et fortement divisé. Certes, il n'y a pas grand-chose de commun, écrit-il, pas grand-chose de commun entre, d'une part, les milliers de jeunes et de moins jeunes qui discutent sans fin jour et nuit place de la République à Paris, et, d'autre part, Emmanuel Macron, qui vient de lancer son mouvement, pas grand-chose de commun, sauf ceci, qui est préoccupant pour le chef de l'État, leur commun refus, que ça continue comme ça. Ils veulent que ça bouge, ils veulent que ça change. Concernant le ministre de l'économie, il revendique déjà des milliers d'adhérents. 3 jours seulement après le lancement de son nouveau parti, En Marche, des milliers d'adhérents sur son site internet où, il faut le préciser, l'inscription est gratuite. L'argent, en politique, c'est pourtant le nerf de la guerre et pour l'heure, ce micro-parti est financé par quelques amis et sur ses deniers personnels insuffisants pour une éventuelle campagne. Mais Emmanuel Macron nous explique que l'hebdomadaire va mener des levées de fonds. Il dînera dès jeudi soir à Londres avec des banquiers et des chefs d'entreprise à l'invitation d'un cadre de Goldman Sachs. Comme tous les partis, je vais procéder, dit-il, à un appel aux dons. Et c'est en fonction du succès de cet appel aux dons et du succès de son parti que le ministre décidera s'il est opportun ou pas de se lancer dans la conquête de l'Élysée. Pour Macron donc, un dîner à Londres jeudi soir et ce, au moment même où François Hollande sera sur France 2 pour tenter d'expliquer sa politique et de reconquérir un électorat qui ne cesse de dire sa déception. Nouvelle preuve, avec le sondage IFOP réalisé pour le compte du JDD, 80% des personnes interrogées ne souhaitent pas qu'il se représente et c'est aussi ce que pense une majorité de sympathisants du Parti Socialiste. Dans le journal, vous lirez aussi, enfin si vous le souhaitez, l'interview improbable de la bimbo Nabila. Il y a quelque temps, elle s'était aventurée à donner des conseils à François Hollande. Il faut, disait-elle, qu'il fasse le buzz. Et il a suivi mes conseils, constate-t-elle aujourd'hui, avant d'affirmer que maintenant, ce qu'il devrait faire, c'est de la télé-réalité. Délirant, penserez-vous, mais non. Comme l'écrivait Shakespeare, le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs.
À droite aussi, du reste, les acteurs continuent de se battre en vue de 2017.
Interview de François Fillon dans Le Monde. Il sera, dit-il, très difficile pour Nicolas Sarkozy de se présenter. Mais dans le JDD, confidence de Jean-Marie Le Pen, pour lui, aucun doute, c'est bien Nicolas Sarkozy qui remportera la primaire à droite. Pourquoi ? Parce que l'animal politique est redoutable, dit-il, il est pire que le lapin Duracell. Lui, si on lui enlève les piles, il marchera encore. Mais marcher jusqu'où ? Être ou ne pas être ? Président de la République, telle est bien la question. Dans le journal, lire aussi le reportage d'Anne-Laure Barret sur la place de la République. À Paris, là-bas aujourd'hui, On est le 31 mars, dans le nouveau calendrier révolutionnaire. Rencontre avec les militants du mouvement Nuit Debout. Ils sont chaque nuit des centaines à refaire le monde et surtout à espérer un monde meilleur, nouveau monde admirable qui contient des gens pareils, comme l'écrivait Shakespeare. Mais alors, la comparaison avec les indignés espagnols. On dit chaque fois que c'est ce mouvement auquel ressemblent ces militants de la Nuit Debout. La comparaison est-elle pertinente? Lire la réponse d'Yves Saint-Omer dans Le Monde. Il est professeur de sciences politiques. Et oui, pour lui, cette comparaison avec les indignés espagnols tient la route. Elle l'est, dit-il, dans la mesure où l'on voit une forme d'action similaire, l'occupation d'une place, des assemblées générales où il n'y a pas de leader, une mobilisation à travers les réseaux sociaux. On retrouve aussi un discours sur le refus de la classe politique, le refus de la caste, et une critique sociale radicale. Cependant, précise-t-il, en Espagne, le mouvement a été massif plus encore, et il a duré très longtemps. Pour l'heure, en France, on n'en est pas encore là. C'est donc à lire dans Le Monde, qui relève par ailleurs l'une des conséquences de l'affaire des Panama Papers. Pedro Almodovar a décidé de ne pas faire la promotion de son nouveau film Julieta. Le cinéaste espagnol figure avec son frère sur la liste de ceux qui ont un temps possédé un compte offshore au Panama. Les concernant, c'était au début des années 90, époque qui coïncide avec la sortie de Talons Aiguilles et de Kika, mais donc afin de fuir les questions possiblement gênantes des journalistes, Almodovar a tout annulé. Conférence de presse, interview, il s'est contenté d'un court communiqué pour expliquer précisément qui n'avait aucun commentaire à faire sur le sujet.
Un sujet qu'on retrouve à la une du Parisien ce matin.
Oui, avec un sondage sur la fraude fiscale. Étonnant dossier, fraude fiscale, le paradoxe français. C'est le titre à la une du Parisien ce matin, sondage exclusif pour le Parisien. 8 Français sur 10 estiment que la fraude fiscale n'est pas assez condamnée. Mais ils sont très nombreux à avouer que s'ils avaient beaucoup d'argent, eux-mêmes pourraient parfaitement avoir recours à une telle fraude fiscale et placer leur argent à l'étranger. En somme, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et puis, autre sujet, dans Le Parisien, qui revient sur la petite révolte du 16e arrondissement. Affichage, pétition, tous les moyens sont bons pour lutter contre la construction d'un centre pour sans-domicile fixe dans cet arrondissement parisien qui compte le plus de grosses fortunes en France. On apprend notamment dans le dossier que de nombreux sans-domicile fixe n'ont pas du tout envie d'aller dans le 16e arrondissement où, disent-ils, ils ne seront forcément pas bien accueillis. Le magazine Alternative Économique s'intéresse également aux sans-domicile fixe et pas seulement à ceux qui errent dans la capitale ou comme ailleurs, ce sont quasi exclusivement des hommes que l'on croise. Mais est-ce à dire qu'il n'y a que très peu de femmes SDF? C'est la question. Réponse oui, elles sont moins nombreuses. Parce qu'en fait, il y a davantage de structures pour les accueillir. Mais en prime, quand elles se retrouvent contraintes à vivre dehors, la plupart du temps, elles se cachent. Et c'est pour cela qu'on ne les voit pas. Elles cachent qu'elles sont SDF, en continuant à se vêtir le plus correctement possible, pour ne pas avoir l'air de clochardes, ou bien alors, en faisant le choix de s'habiller comme des hommes. Elles gomment leurs attributs féminins, et quand on les croise, on ne se dit pas que ce sont des femmes à la rue, on se dit que ce sont des SDF. Comme les autres, tant d'autres, dont ne veulent donc pas les habitants des beaux quartiers du 16e paradis, des Yorkshire, des Bichon et autres caniches abricots. À ce propos, lire dans Cosette un sujet...
Il y a longtemps qu'on voit plus de caniches abricots. Caniches noires, je veux bien, mais pas abricots, Frédéric.
Alors, paradis des Yorkshire, des Bichon et autres caniches noires et blancs. À ce propos, lire dans Cosette, un sujet qui pourrait intéresser une bonne partie des habitants du 16e, un sujet sur la pollution cachée de nos animaux domestiques. Et il n'est pas seulement question de leurs petites déjections, mais aussi de ce qu'ils consomment et de leur coût pour l'environnement. La France compte 63 millions d'animaux domestiques, près de 13 millions de chats et plus de 7 millions de chiens. Or, on estime l'empreinte carbone moyenne d'un chien à près de 2 tonnes par an. 2 tonnes équivalent carbone, soit la même qu'un 4x4 qui aurait parcouru 16 000 km. En cause, la nourriture et puis les produits sanitaires, les antipuces notamment, qui contiennent souvent les mêmes molécules toxiques que les pesticides de l'agriculture. Pour les chats, il y a les litières, 33 kg par an, soit 400 000 tonnes qui viennent augmenter le poids des ordures ménagères. Quant aux déjections canines, car il faut tout de même en parler, elles provoquent nombre d'accidents. Et cette fois, c'est un coût limité certes, mais tout de même un coût pour la sécu. Chaque année, en moyenne, 650 Parisiens finissent à l'hôpital à la suite d'une glissade sur une crotte de chien. J'ai commencé avec Shakespeare, j'avoue que j'aurais bien aimé conclure également avec lui.
Il n'y a rien écrit là-dessus.
J'ai cherché, j'ai lu notamment l'excellente revue L'éléphant qui consacre tout un dossier au grand dramaturge et poète disparu il y a 400 ans. J'ai cherché, mais non, je n'ai trouvé aucune citation de Shakespeare sur les crottes de chien. Bonne journée.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.